Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Belinda Bosuma.
Des réactions au lendemain du face-à-face Tshisekedi Kagame à Doha au Qatar. Cette rencontre ne donne aucune garantie de paix pour les Congolais, estime la plateforme politique de l'opposition Lamuka. Du côté de l'Union sacrée de la nation, on estime qu'il faudra capitaliser cette rencontre en lieu et place des discours de haine et triomphalisme. La société minière du Maniema signe un protocole d'accord avec la communauté de Punia. C'est après plusieurs jours de conflit suite à la non-exécution du cahier des charges. La société accepte entre autres de construire deux écoles dans le territoire de Punia. Et puis, la combolisation, une philosophie pour remettre l'ordre dans la maison. Par cette théorie, Marie-Josée Ifoku, actrice politique et présidente du réseau Ekoki Inachoka, sensibilise la population congolaise et lance un appel à la reconquête nationale pour sauver la RDC. Marie-Josée Ifoku est l'invitée de ce journal. À tous et à toutes, bonjour. Réaction au lendemain de la rencontre Félix-Antoine Tshisekedi Paul Kagame à Doha au Qatar. La plateforme politique de l'opposition Lamuka dit être surprise par la rencontre que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a eue en catimini avec le président rwandais Paul Kagame le mardi à Doha. D'après le porte-parole de Lamuka, cette rencontre entre les deux chefs d'État ne donne aucune garantie de paix pour les Congolais. On écoute Prince Epengé.
Sans en avertir les Congolais, Félix est allé rencontrer Paul Kagame dans les dos des Congolais au Qatar. Et vous savez qu'au début de son mandat, en 2019, il avait noué des alliances avec Paul Kagame. Il avait proposé les richesses du Congo contre la paix avec Paul Kagame. Et cette paix-là, on l'a pas eu. Au contraire, c'est une guerre qui occupe maintenant des provinces du pays. Qu'est-ce qui nous dit que Félix Tshisekedi ne sera pas floué à nouveau par Paul Kagame? Quelles sont les garanties que ces réunions nuitamment organisées au Qatar avec Paul Kagame ne vont pas déboucher sur une situation encore catastrophique et c'est les Congolais qui vont payer les prix. Les Congolais s'interrogent si on doit continuer à laisser Félix Tshisekedi engager le pays comme ça seul, sans qu'on sache qu'est-ce qu'il dit avec Kagame, parce que hier il a appelé son frère et son ami, finalement on a été poignardé dans les dos, hein? Il avait promis qu'il raconterait Kagame seulement au paradis. Aujourd'hui il a changé de langage. Demain ne va-t-il pas encore venir nous dire que Kagame l'a encore à nouveau poignardé dans les dos?
Du côté de l'Union sacrée de la nation, une attitude d'optimisme est observée dans la réaction de l'un de ses membres, Willy Mishiki, qui estime qu'il faudra capitaliser cette rencontre en lieu et place des discours de haine et triomphalisme. On écoute Willy Mishiki.
Nous pensons qu'en ce moment, nous devons éviter toutes sortes de triomphalisme et de discours haineux qui risquent de remettre à cause les pans géants que nous venons de franchir. Cet accord de cesser les faits immédiat et inconditionnel ne remet pas en cause le processus fusionné de Luanda et de Nairobi, ainsi que les dialogues internes déjà entamés par le Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État et d'autres initiatives telles que celles de la CENCO-SCC et les églises de réveil. C'est une occasion pour nous pour la paix. Nous devons aujourd'hui travailler pour que les pas qui viennent d'être franchis par nos leaders soient consolidés. Nous allons continuer à faire tout ce qui est de notre possible pour que aucun enfant de la République démocratique du Congo ne puisse encore être victime de ce conflit qui a laissé aujourd'hui beaucoup de familles en détresse.
C'est un dossier réalisé par Askin Zigbia Tayoro. Dans l'actualité aussi, la commission diocésaine Justice et Paix de Kikwit a organisé du 18 au 19 mars au centre Caritas de Kinshasa une table ronde sur la paix et la cohésion sociale dans la zone à conflit de la milice Mobondo. Plusieurs personnalités influentes de l'église catholique, dont les évêques et les notabilités des communautés affectées par le conflit Mobondo, ont réfléchi sur des voies et moyens susceptibles de mettre fin à ce conflit. C'est notamment par le vivre ensemble exemple la collaboration verticale et horizontale entre le peuple Yaka et Teke sur le conflit foncier qui les oppose dans les territoires de Kwamut en RDC. Ces réflexions ont soutenu les initiatives qui visent à restaurer une paix durable dans les provinces du Maïndombe, Kwilu, Kwango et certaines zones de Kinshasa et à financer des réponses appropriées à la crise humanitaire de l'ouest de la RDC, crise souvent oubliée selon l'évêque de Kikwit. Monseigneur Timothée Bodika fixe quelques objectifs au micro de Jeff Ngoy.
C'est dans la logique de la recherche de la paix que la commission diocésaine justice et paix de Kikwit, nous avons monté un projet d'appui à la cohésion sociale entre les communautés Yaka et Teke dans une partie de cette zone à conflit. Le projet repose sur trois piliers. Le contrat social, la collaboration horizontale, cohésion sociale et la proposition de solutions durables. Les objectifs, c'est d'informer les différents acteurs, bailleurs de fonds intervenants sur cette crise quasi oubliée à cause de la situation humanitaire la plus sévère de l'ouest de la République démocratique du Congo. Interpeller la conscience des autorités et acteurs clés de la société civile, dont les chefs de confession religieuse et les chefs coutumiers, sur l'imminence de trouver une solution durable à ces conflits.
Les forces armées de la RDC libèrent trois personnes, dont deux hommes et une femme, pris en otage par les miliciens Mobondo. Les faits se sont déroulés mardi entre les villages Elanga et Bukana sur la nationale numéro 17, à une vingtaine de kilomètres de Mongata, dans la commune rurale de Maluku. Cette libération a eu lieu grâce à une opération spéciale menée par l'armée dans ce coin du pays, dans le cadre de l'opération Ngemba Upe. Selon le porte-parole de cette opération, les personnes enlevées se rendaient au village Boku avec le corps sans vie de leur fille décédée. Ce cadavre a aussi été pris par les miliciens et reste introuvable, regrette le capitaine Anthony Mwalushai. Il explique au micro de Irène Boma.
Les personnes libérées sont M. Géry Libali, enseignant au village de Boku, son jeune frère Libali, cultivateur, et Mme Pichou, mère de la jeune fille décédée. Ces trois personnes se rendaient à Boku pour des funérailles. Arrivés au point de contrôle du village Fomokinton, les soldats ont découvert un carton de cartouches de calibre 12 de type 00 dissimulé dans leur véhicule. Le véhicule a été immobilisé et les passagers ont dû emprunter un autre moyen de transport en direction de Boku pour enterrer leur fille. Mais selon les insurgés croisés sur le chemin, ces trois personnes en deuil auraient informé les autorités militaires de la présence des cartouches dans le véhicule. À leur arrivée au village Elanga, sur la RN17, les trois individus et le corps ont été amenés en brousse par les insurgés Mobondo. Dieu merci, les opérations menées par l'armée a facilité la libération de ces trois compatriotes. Malheureusement, le corps sans vie d'une jeune fille accompagnant les trois victimes n'a pas été retrouvé par l'armée congolaise.
Ici à Kinshasa, un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années a perdu la vie mardi sur l'avenue Kikwit à Matongé. Cela après avoir reçu une balle perdue à la suite des affrontements ayant opposé les militaires de la garde républicaine aux policiers d'un sous-commissariat de ce quartier. D'après le bourgmestre de la commune de Kalamu, Charlie Louboya, qui livre l'information à Radio Kapi, la cause de ces affrontements n'est pas encore connue. Cependant, des enquêtes sont en cours pour tenter d'en dénicher les auteurs. Charlie Louboya, joint par Plotin et Mbenga.
Il y avait une société à Makala, en face de chez moi, qui a été attaquée par des gardes républicains. Donc, il y a eu une menace qui a commencé. Il y a eu échange de coups de balle. Malheureusement, il y a eu une victime qui est succombée sur place. C'est un homme de plus ou moins une quarantaine d'années qui est décédé. On l'a amené à Mabanga. Et la police de Soussiat a pris fuite. Et également aussi, le GER aussi a fui. Donc, on n'a pas pu récolter les éléments. Jusque-là, c'est toujours en enquête.
Direction la province du Maniema. La société minière du Maniema, MIMA en sigle, signe un protocole d'accord avec la communauté de Punia. Ceci intervient après plusieurs jours de conflit suite à la non-exécution du cahier des charges. Sous la médiation du gouverneur du Maniema, les deux parties se sont convenues. La société accepte de construire premièrement deux écoles dans le territoire de Punia, acte qui réjouit les habitants de ce coin avant de féliciter le chef de l'exécutif provincial pour son implication. On écoute à ce sujet Nguino Richard, l'un des représentants de la communauté locale, propos recueillis par Florence Kizalunga.
Ça fait longtemps que la société Mima exploite dans les Normanyema, précisément à Pougne. Malheureusement, pendant tout ce temps, aucune trace du développement. Et c'est pourquoi il y avait des malentendus. C'est comme ça que nous nous sommes mis aujourd'hui d'accord devant le gouvernement provincial afin que les œuvres sur le plan pratique commencent à se réaliser par rapport à l'exploitation que la société est en train d'exploiter aujourd'hui. La Mima elle-même s'est engagée de construire dans un premier temps deux écoles au village Matumba, y compris une autre école, la seconde donc, au groupement Babogombe. Ça, c'est en attendant le processus de la signature des cahiers des charges. Et c'est à partir de ces cahiers des charges que les restes du projet, sur le plan concret, va continuer. Et nous avions trouvé que continuer à se quereller, ça ne nous servait à rien. Voilà pourquoi nous avions jugé bon de se mettre à la table. Voilà pourquoi j'adresse ces mots à la communauté de Pougne entière d'être derrière ces processus d'accord que nous venons de signer aujourd'hui, parce que la MIMA elle-même s'est engagée. Alors, nous devons voir maintenant la praticabilité de ce que nous venons de faire pour la journée d'aujourd'hui.
Rendons-nous en Ituri. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le ACR ont fait un don d'équipement à des organisations humanitaires partenaires nationaux ainsi qu'à certains services de l'État pour un coût total estimé à près de 20 000 dollars américains. C'est dans le cadre du programme Solutions Durables dont le but est d'accompagner et d'autonomiser les personnes déplacées qui désirent quitter les sites pour vivre dans d'autres milieux sécurisés. Détail dans ce reportage de Jean-Claude Loki.
Il s'agit de motos, de tricycles ainsi que de kits solaires pour les responsables intérimaires de la division des affaires humanitaires de l'Ituri qui a reçu une moto. Cet engin va faciliter la mobilité des agents de cette structure qui éprouvent des difficultés pour se rendre sur le terrain en vue de mener leurs activités. Robert Macon.
Cette moto va permettre au personnel de la division de faire le suivi de ces personnes des déplacés internes qui ont bénéficié de tous ces avantages-là.
Parmi les bénéficiaires de cette dotation figure aussi la Commission nationale pour les réfugiés CNR qui a reçu une moto et de kits solaires. Le responsable de ce service de l'État affirme que ces panneaux solaires viennent résoudre la difficulté d'énergie à laquelle son service faisait face au quotidien à cause des coupures intempestives du courant électrique à travers la ville. Ignace Paouni.
Nous avons un problème du courant et même si le courant devrait être stable dans ces bureaux, qui devrait payer? C'est une maison d'autrui. Le kit solaire va nous aider au moins à avoir un courant et l'énergie permanente qui peut nous aider aussi à imprimer les différents documents administratifs.
Selon le communiqué du ACR, il s'agit des équipements gracieusement offerts par le groupe de travail Solutions Durables pour un montant chiffré à 19 737 000 dollars américains. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Autre nouvelle, au Kasaï oriental, quelques quartiers de Mbujimayi sont privés d'eau potable depuis au moins 4 jours. C'est une conséquence de la coupure de l'énergie électrique suite à une panne survenue depuis vendredi dernier à la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi, construite par la société Anui Congo d'investissement minier SACIM. Détail avec Esther Nalafina.
L'eau potable ne coule pas au robinet de la ville Miba, ceux des quartiers Tchatchatcha, de Tubondo, de Tchassassa dans la commune de la Kanchi. L'eau potable est devenue une denrée rare également au quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba, ainsi que Boubangi dans la commune de Djoulou et de la Poste dans la commune de la Mouya. Plusieurs femmes ménagères, les jeunes filles et garçons avec des bassins sur la tête et des bidons jaunes en main sillonnent les avenues à la recherche de l'eau potable. Lamentation de Brigitte Miandabou.
Nous avons un problème sérieux d'eau. Nous souffrons vraiment pour avoir de l'eau, nous les habitants de Bipemba. Les enfants commencent à boire de l'eau de Nzaba. Nous n'avons pas de l'eau pour laver les enfants. Nous partons à Nzaba pour nettoyer les habits, puiser de l'eau de la rivière pour boire et faire boire nos enfants.
Certaines femmes ménagères affirment que la pluie qui a arrosé la ville dans la matinée de ce mercredi n'a pas résolu tous les problèmes liés au manque d'eau dans leur maison. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Mali annonce officiellement son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, suivant ainsi le Niger et le Burkina Faso, ses alliés au sein de l'Alliance des États du Sahel. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères malien dénonce une application sélective des sanctions par l'OIF basée sur des considérations géopolitiques ainsi qu'un manque de respect pour la souveraineté des États. Il accuse également l'organisation d'être devenue un instrument politique téléguidé Pour rappel, le Mali avait été suspendu de l'OIF en août 2020 après le coup d'État ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce nouvel épisode confirme la volonté des autorités maliennes de prendre leur distance avec les institutions internationales jugées proches de la France et de renforcer leur coopération avec des nouveaux partenaires.
L'invité.
La combolisation, une philosophie pour remettre de l'ordre dans la maison. C'est par cette théorie que Marie-Josée Ifoku, actrice politique et présidente du réseau Ekoki Inachoka, sensibilise la population à prendre conscience de la situation que traverse le pays. Elle lance également un appel à la reconquête nationale pour sauver la RDC. Marie-Josée Ifoku s'entretient avec Étienne Lissoumbou.
Marie-Josée Ifoku, bonjour.
Bonjour.
Femme politique et leader de la société civile, vous lancez un appel à la reconquête de l'unité nationale. Quelles sont les pistes que vous préconisez au prix de cette unité?
Tout le monde parle de la cohésion nationale, tout le monde parle de l'unité. Tout à l'heure, on a parlé encore de solidarité. Le peuple congolais, pour moi, n'a pas de problème. Le peuple congolais est prêt. Le peuple congolais veut un changement. Et lorsque nous parlons d'unité, ce mot doit être lancé à partir de la tête, à partir de ceux qui sont responsables dans les institutions. C'est eux qui doivent créer cette ambiance-là d'unité. C'est eux qui doivent créer cette envie-là que nous soyons unis une fois de plus, parce que nous le savons tous que la division que nous connaissons aujourd'hui au sein de la population congolaise vient encore de la classe politique. Donc quand je parle d'abord de la tête, je parle des institutions et je parle aussi des leaders politiques. Je parle de l'Église, je parle de la société civile, de tous ces grands leaders, de toutes ces élites. C'est à eux de lancer cette unité-là. Parce que le peuple n'a pas un problème, mais le peuple se trouve dans une situation, ils sont dans un camp, celui-là est de Paul, celui-là est de Pierre, ils sont dans cet état d'esprit-là. Alors si Paul et Pierre s'entendent, si les autorités comprennent que nous sommes dans une période où on doit se serrer la main, je pense que les choses peuvent être différentes. Donc moi j'attends cela de la part des leaders, et en partant d'abord de la politique, donc du président de la République, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat. Ce sont eux d'abord qui doivent lancer ce concept pour que tout le monde puisse se mettre ensemble. Donc que ça ne demeure pas au niveau d'un discours, mais que ce soit des faits.
Quand on parle de Marie-Josée Ifoku, on parle de votre philosophie des combolisations, c'est-à-dire remettre l'ordre dans la maison. Ce que vous dites dans la combolisation, quelles sont les pistes de solutions que vous préconisez dans ça?
Les pistes de solutions, enfin dans cette situation dans laquelle on se trouve, c'est vraiment la combolisation qui doit aider à cela. La rupture du système de prédation. Nous sommes dans un système de prédation qui a vu le jour depuis que nous sommes nés État indépendants du Congo. En passant par notre indépendance en 1960, nous sommes dans cet état d'esprit de prédation. Et c'est ainsi que nous disons que travaillons d'abord sur l'homme, travaillons sur le Congolais qui a été abusé depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Le peuple congolais ne s'est jamais retrouvé. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais ne se sent pas pris en charge. Donc commençons par l'éduquer, à le conscientiser, à lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Parce que c'est comme s'il est le dindon de la farce. Donc la combolisation, pour aller à quelque chose de neuf, il faut un processus. Donc ce processus-là, pour nous, c'est la combolisation. Donc,
alors, vous, en tant que femme, avez-vous un message à adresser aux femmes qui sont violées, qui se déplacent, les jeunes filles qui sont massacrées à l'est du pays?
C'est difficile de leur donner de l'espoir aujourd'hui. Mais je vais leur dire que sans vie, sans espoir, il n'y a pas de vie. Donc je leur demande de s'agripper à cette vie-là. Cette vie qui est horrible, cette vie qui est difficile, cette vie qui n'a plus de mots. Je ne sais pas, moi, c'est horrible ce que vous êtes en train de traverser, mais je vous dis de tenir bon. Nous ne pouvons pas lâcher. Nous allons continuer à vous soutenir. Et nous sommes en train de conscientiser les mamans pour qu'elles comprennent que nous ne pouvons pas continuer à avoir une vie normale. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Nous devons dénoncer. D'ailleurs, j'ai écrit un courrier aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous le laisser comme ça. J'ai la copie à la présidente de l'Union européenne. C'est une femme qui est à la tête de l'Union européenne. Oui. Et ma lettre, je lui ai adressée pour demander qu'il puisse rompre ce contrat avec le Rwanda. Parce qu'ils ont donné un mandat officiel au Rwanda de nous massacrer, de nous tuer, de nous exterminer, de violer les femmes. Alors qu'eux sont là pour nous appuyer. Ils sont là pour parler des droits fondamentaux de l'être humain. Mais comment peuvent-ils faire une chose pareille? Et moi, j'ai préparé ce cours. Enfin, je l'ai déjà fait. Je vais vous le laisser. Vous pourrez le lire. Pour demander à cette femme-là, parce que c'est une femme, qu'elle comprenne les atrocités que nos sœurs sont en train de vivre depuis 30 ans. Et aujourd'hui, on n'est plus capable de supporter cela. Et je pense que ce sont des sœurs comme nous. Nous avons droit à la vie, nos sœurs ont droit à la vie, il va falloir les conscientiser, qu'elles comprennent que elles peuvent redonner espoir aussi à nos sœurs. Nous le faisons, mais le monde entier doit le faire aussi. Donc voilà, notre courrier, je vais vous le déposer de manière à ce que ça soit publié pour tous et que toutes les femmes qui nous suivent, d'abord en partant par nous-mêmes, en commençant par nous-mêmes, que nous puissions faire la même chose, dénoncer chaque jour, dénoncer jusqu'à ce qu'ils annulent ce contrat. Alors là, nous croirons que la résolution qui avait été prise en vaut la peine et ça va permettre à nos populations qui sont à l'est du pays de pouvoir espérer effectivement que les choses vont changer.
Marie-Josée Foucault, Radio Capu vous dit merci.
Notre invitée est actrice politique et présidente du réseau Ekoki, Inachoka. Elle répondait aux questions de Étienne Lissumbu. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pelekipe Lamondo à la mise en onde d'Eps Vita. Merci de nous avoir suivis.